France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les personnels hospitaliers sont appelés à manifester leur amour du service public en ce 14 février. Trois mois après le plan d'urgence du gouvernement, syndicats et collectifs estiment que les mesures ne répondent toujours pas à leurs revendications pour l'hôpital public. Une centaine d'actions de tout ordre sont donc prévues un peu partout en France aujourd'hui. C'est une démission collective. La direction de l'Académie des Césars claque la porte à 15 jours de la cérémonie pour retrouver la sérénité. Voilà ce que dit l'instance dans un communiqué publié hier soir. Le scénario bien rodé des Césars était entaché par des polémiques ces dernières semaines. Après une tribune de 400 personnalités du cinéma réclamant une réforme de l'Académie vieillissante. Après aussi les 12 nominations pour le film de Roman Polanski accusé de viol. Polémique également avant les victoires de la musique qui auront lieu ce soir. Polémique d'un autre genre cette fois. Certains se sont émus de la disparition de quelques catégories. Exit le rap, les musiques du monde ou la musique électronique. Les victoires suppriment cette année 5 catégories sur 13. Elles sont accusées d'un manque de diversité. 8 personnes contaminées par le coronavirus en France restent hospitalisées ce matin, 8 sur 11. Les autres ont pu quitter l'hôpital, guéris ces derniers jours. Aujourd'hui, ce sont les rapatriés de Wuhan qui vont quitter le centre de vacances de Carry-le-Rouet près de Marseille après 14 jours de mise en quarantaine. Tout autre bilan en Chine, en revanche, 116 nouveaux décès ont été constatés dans la province du Hubei, soit un total de presque 1350 morts en Chine depuis le début de l'épidémie en décembre. Dans la région, les États-Unis se disent prêts à faciliter la prévention contre ce coronavirus en Corée du Nord, où des mesures de confinement ont déjà été prises. Les États-Unis, où le ministre de la Justice américain s'en prend au tweet du président Donald Trump, après la révision à la baisse des recommandations de peine et dans un souci de reprendre la main, il a déploré hier que les tweets du président rendaient son travail impossible.
My Funny Valentine, où rencontrer l'âme sœur en 2020, Emmanuel Laurentin.
L'arrivée des plateformes de rencontres sur Internet a profondément bouleversé la manière de séduire et de découvrir l'autre. Parallèlement, des lieux de rencontres traditionnels comme les bars ou les discothèques peinent aujourd'hui à se renouveler. À l'occasion de la Saint-Valentin, le temps du débat se demande où nous pouvons encore nous rencontrer.
Le temps du débat, ce vendredi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Du 7 au 16 février, 30e édition du Festival Présence 2020, Festival de création musicale de Radio France, consacré au compositeur anglais George Benjamin. 18 concerts, 80 œuvres, 24 créations mondiales, 11 créations françaises, 60 compositeurs, plongés au cœur de la création. Informations et réservations, maisondelaradio.fr.
6h03 sur France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio tôt le matin ou quand vous voulez, en passant par le podcast. Tous les vendredis, on parle de l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, pour terminer cette semaine sur France Culture consacrée au territoire de la culture, justement, la culture dans les territoires, dans les petits patelins, entre autres, j'ai décidé d'inviter Manu Larcenet, parce que Manu Larcenet a quitté la ville il y a quelques années pour s'installer avec sa famille à la campagne. D'ailleurs, il raconte tout ça dans une série de bandes dessinées, Retour à la Terre. Manu Larcenet qui vient de publier chez Dargo thérapie de groupe sans passer par le papier. C'est fini le papier. Il travaille directement à l'ordinateur en tant qu'écolo citoyen. Manu Larcenet dans le réveil culturel, un entretien enregistré dans un troquet il y a quelques jours.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Thank you. comment on passe d'une méthode de travail, disons traditionnelle, le crayon, la plume, le papier, à l'ordinateur? Qu'est-ce qu'on fait, Manuel Arsenet? On apprend tout seul comme un grand?
On fait exactement comme on a fait depuis le début, c'est-à-dire que moi j'ai pas appris à ancrer par exemple une planche de bande dessinée à l'école, j'ai appris tout seul en regardant les anciens. Et là ça change pas, j'ai un stylo sur ma tablette, c'est pas un clavier, tu vois, que j'ai, c'est un stylo, donc le trait, un trait c'est un trait quoi, un trait que tu le démarres en A, de A à B sur ordi ou sur papier, c'est pareil. Après, il faut apprivoiser. Mais en fait, le vrai truc, eh bien, c'est le CTRL-Z. Tu vois ce que je veux dire? L'immédiat repentir. Tu merdes un truc, hop, tu l'enlèves tout de suite. Alors qu'avant, il fallait le couvrir, il fallait le masquer, il fallait mettre du blanc, c'était du bricolage. Justement, l'ordinateur permet de... Moi, me donne une patience que je n'ai pas. Dans le livre, vous verrez, il y a des pages entières qui sont faites, vous savez, de ces vieilles... Janis Joplin utilisait ça dans les années 60, 70. C'est des le psychédélisme. Sur du papier, jamais je me serais lancé dans... Là, j'ai fait 2-3 pages entièrement psychédéliques. Jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais eu le courage de faire ça. C'est long, c'est pénible. Eh ben, l'ordinateur, comme vous agrandissez et que vous vous retrouvez avec un petit carré, bah, vous dessinez en pensant à autre chose. Vous dessinez, puis petit à petit, ça se monte, ça se fait, et hop, c'est fini. Ça m'a donné de la patience, une patience que j'avais pas, en fait.
Quand vous avez travaillé le tome 1 de cette nouvelle série, Thérapie de groupe, Manu Larsenet, tout était déjà pensé avant que vous vous mettiez à dessiner ces petites histoires, ces fragments d'histoire?
Alors, à l'inverse de ce que j'ai fait récemment, c'est absolument de l'improvisation tout du long. L'improvisation, quand je m'entends, c'est-à-dire que je dessine une page, et puis après je tourne autour de ma table pendant 3-4 jours, et à un moment, je me dis, je pourrais continuer comme ça, donc j'essaye, ça marche pas, si ça marche, tant mieux, je passe à la troisième, si ça marche pas, je jette, et puis je remarche autour de ma table pendant quelques jours, et puis j'essaie. Je réessaye tout, et souvent sous le coup d'émotions artistiques, c'est-à-dire, là par exemple, je lisais un livre sur la gravure du Moyen-Âge. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, j'ai jamais utilisé ça. Et là, dans le tome 2, il va y avoir je me lance dans des gravures du Moyen-Âge, donc c'est long, pénible et tout. J'ai refait des tableaux de Dürer, des choses comme ça à ma sauce. C'est des petits plaisirs graphiques que j'arrive à incorporer dans, parce que c'est pas une histoire, c'est pas un récit non plus, dans le journal intime que c'est ce truc-là. Et beaucoup de choses partent de ces envies graphiques.
Mais il y a d'abord cette question qui est centrale dans ce tome 1, c'est-à-dire l'artiste face à la panne d'inspiration, ou face à la peur de la panne d'inspiration, voilà. Plutôt.
Eh ben, vous êtes le premier à dire ça, et c'est exactement ça. C'est la peur de la peur. C'est un nom, d'ailleurs, je me souviens plus. C'est un nom quand on a peur de la peur. J'arrive péniblement, à un âge avancé, une cinquantaine d'années au compteur, et j'ai plus envie de bâcler. Ça me saoule maintenant. Donc j'ai envie de faire quelque chose qui soit non plus une ressucée de ce qu'on a déjà vu ou de... Voilà, j'arrive à un moment où j'ai envie de... J'ai fait mon truc à moi avec Blast, donc dans un côté très noir, très... Voilà. Et en humour, j'ai travaillé avec Ferry et j'étais ravi, mais c'est pas moi qui écrivais. Et tout le reste que j'ai fait en humour, je suis pas content. Donc je me suis dit, là maintenant, il faut que je m'attaque à l'humour et que je fasse exactement un truc qui soit personnel. Et moi, ma personnalité, c'est le chaos. Dans ma tête, c'est très très chaotique. Et je me suis dit, il faut que je prenne ça comme un atout et non plus comme un handicap pour ne pas mener un récit, justement, mais mener des réflexions. Alors évidemment, ça peut paraître un peu pompeux, un peu chiant, mais j'essaye que ces réflexions soient justement plutôt rigolotes ou plutôt un petit peu enlevées, tu vois. J'essaie pas de faire pleurer dans les chaumières. Mais en même temps, je veux parler du dessin, je veux parler de la création, je veux parler de la difficulté, je veux parler aussi de l'idée de... Tout le monde peut trouver des idées, c'est pas un problème. Tout le monde me dit... Les idées, c'est pas un problème, c'est la bonne idée qu'il faut trouver. Et ça, c'est une vie de travail, c'est des mois et des mois de se dire, mais que faire? Et là, mon idée, c'est d'être le plus proche possible de ma psyché à moi.
Est-ce que vous êtes vraiment bipolaire, Manuel Arsenet?
Alors, j'ai été diagnostiqué tout à fait officiellement 2 fois, oui. On est diagnostiqué au bout de 8 ans, et ça fait 30 ans que je suis en thérapie.
Oui, mais alors, est-ce que c'est clinique ou est-ce que c'est propre à tous les artistes, non, dédoublement?
C'est clinique, c'est absolument clinique. Il y a des artistes, notamment Van Gogh, notamment Baudelaire, c'est assez visible. Déjà, il y a 2 bipolarités, il y a la bipolarité type 1 qui est très grave, et puis moi je suis de la bipolarité type 2 qui est un peu moins grave. Et puis surtout, je suis sous traitement, c'est-à-dire que maintenant, depuis une quinzaine d'années, je suis sous traitement.
Et ce que vous racontez dans thérapie de groupe,
bien sûr, et puis j'ai fait des conneries avec ces traitements, j'ai pris les médicaments mal, j'ai arrêté de les prendre et tout, mais bien sûr, en vieillissant, je me suis fait une raison, et ce traitement m'a, comment je peux vous dire ça, m'a sauvé, en fait. Je voyais pas ce que j'allais faire sinon. On sait pas l'expliquer, en fait. C'est une maladie qui naît de 2 choses, qui naît d'un terrain génétique, dans ma famille, sans doute, qui a déjà eu, et une manière de gérer le traumatisme. quand on est enfant, on a des traumatismes tous et on n'a pas tous la même manière de les ressentir. Et pour certains, ça déclenche à l'adolescence un trop-plein d'émotions, de contradictions intellectuelles et tout, qui font exploser la psyché. Et ça m'est arrivé sur le tard. Mais j'étais déjà un enfant dépressif. J'ai dit, mon enfance et ma jeunesse sont pas enviables. Après, ça a été mieux.
Vous allez raconter ça un jour? Ma jeunesse.
J'ai envie de faire une sorte de mes mémoires. Ouais. Ça paraît très très prétentieux, mais ce sera à moitié romancé. Par contre, ce sera pas rigolo là. Et ce sera toutes les choses qui m'ont vraiment marqué durant mes années de jeunesse et d'enfance.
Alors, vous avez parlé de médicaments, Manu Larsonnet, mais ce qu'on découvre dans Thérapie de groupe, c'est que la peinture peut être un remède pour vous. Comment chez vous, ça se concrétise?
Par exemple, il y a un tableau à Orsay de Cézanne qui s'appelle « Femme avec une cafetière ». Ce tableau, je l'ai découvert quand j'avais 13 ou 14 ans. Et j'ai eu un peu ce qu'avait eu l'écrivain, dont je ne me rappelle plus le nom, quand il allait à Florence, qui a eu une sorte d'évanouissement au milieu de tant de beauté. Stendhal. On appelle ça le malaise de Stendhal ou je ne sais plus quoi. Alors j'ai pas eu ça comme ça, je ne me suis pas évanoui devant, mais je suis resté des heures devant ce tableau. Et c'est toujours, quand j'y vais maintenant, c'est toujours aussi fort.
Vous pouvez décrire cette émotion?
C'est un bien-être, c'est l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui n'a parlé qu'à moi. Ça m'est arrivé aussi, par exemple, quand j'ai... Alors, je suis très mainstream, hein, je suis désolé, mais... Par exemple, quand je suis tombé nez à nez au tournesol de Van Gogh, une des 6 versions, je l'ai vu qu'une fois en vrai. Pourtant, j'avais vu ce tableau des centaines de fois dans des repros. Mais de savoir que sa main était là... J'ai l'impression, c'est con, mais j'ai l'impression que c'est pour moi en fait.
Mais pourquoi? Parce que c'est l'histoire du tableau, c'est la perspective, c'est les couleurs.
C'est une vibration, c'est une force, c'est une... Il y a ça pour moi dans la peinture. D'autres le ressentent dans la musique, d'autres vont le recevoir dans le cinéma. Moi c'est dans la peinture. Il y a des peintres, il y a surtout des œuvres on va dire, qui me chavirent parce que, comme quand un écrivain vous dit ce que vous cherchez depuis des années, il vous le dit en 4 mots, et bien certains peintres vous disent ce que vous cherchez depuis des années en 4 traits ou en 4 couleurs. C'est aussi beau. C'est comme de la poésie. On ne sait pas pourquoi on aime une poésie. Et bien un tableau, c'est exactement pareil. Sauf que moi, je sais après pourquoi je les aime. Parce que je les aime tellement que je les décortique. Et que je me renseigne dessus pendant des jours, des années et tout ça. Mais ça n'enlève pas la beauté de quand je vais le voir. Par contre, à l'effet inverse, par exemple, je détestais Mondrian quand j'étais jeune. Et le fait d'apprendre qui était Mondrian, de lire Mondrian et de voir sa progression, eh ben maintenant je trouve que c'est un immense artiste et quand je vois un Mondrian, je reste scotché. Mais j'ai pas cette émotion, si tu veux, là. Mais je comprends ce qu'il a voulu faire. J'ai une passion pour les peintres, faut dire les choses.
On va continuer à dire que Manu Larsonnet fait de la bande dessinée à défaut de faire de la peinture.
Ah, disons que je suis content de faire de la bande dessinée parce qu'il y a la narration. Et les peintres, ils n'ont pas la narration. Ou, enfin, si, ils l'ont en plus. Mais moins facilement que nous en bande dessinée.
Riz, I never thought it'd be this. I'm jumping out of your arms. I landed, fall in a pit. Is this what they call the abyss? I fought and clawed for an inch. Turning a miracle mile. I could recall when your lips used to contort in the smiles. Bright as the sun, it's drawn an eclipse. I haven't seen light in a while. Hasn't been bright in a while. Chris.
Manu Larsonnet, s'il fallait maintenant faire un bilan de votre carrière d'auteur de bande dessinée, est-ce que par exemple c'est un métier que vous allez pouvoir conseiller à des jeunes, à vos enfants par exemple?
Mais moi je conseille de toute façon de dessiner, il faut dessiner et il faut raconter. Je me désole de voir la qualité de l'immense majorité des blogs de jeunes ou des blogs féministes ou des blogs je sais pas quoi. Dès que tout le monde se targue de faire de la bande dessinée, je regarde et je me dis mais c'est pas ça, il faut aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, beaucoup plus loin. Dessiner, tout le monde sait le faire. Faire de la bande dessinée, créer, faire une peinture, faire un dessin, là tout le monde sait pas le faire. Tout le monde ne peut pas dessiner une bande dessinée, ou ne peut pas dessiner un tableau, ou ne peut pas faire un dessin qui tienne debout. Mais tout le monde sait prendre un crayon et faire un rond pour la tête, deux points pour les yeux, c'est un dessin. Après, quand on veut aller plus loin que ça, Pour moi, ça passe par la culture. J'ai découvert ça à l'école. J'étais passionné à mon grand étonnement par les cours d'histoire de l'art. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se casser le cul chez soi à vouloir retrouver des choses qui ont déjà été faites par d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut se remplir de l'histoire de l'art d'abord. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les pistes qui ont été explorées? Et après, voir soi-même où, vers quoi on préfère aller, ou justement aller vers quelque chose qui, a priori, n'a pas été beaucoup exploré. Mais c'est que par la culture. C'est comme, tiens, tu vois, la grande musique, la musique classique. Moi, je connais pas, j'aimais pas. Et puis mon épouse connaît. Et elle m'a fait écouter, elle m'a expliqué, elle m'a remis en perspective les dates. Pourquoi est-ce que ce type a enregistré ça à telle époque? Pourquoi est-ce qu'il a composé ça de telle manière, de ça? Et soudain, je me suis mis à écouter cette musique-là d'une autre oreille.
Parce que vous aviez les clés.
Voilà, exactement. Et je pense que il faut vraiment enseigner l'histoire de l'art en même temps que l'histoire à l'école, parce que ça va de pair, en fait. You are a gift in itself, a measure of wealth, the meaning is selfless. I place you over the shelf and hide in pedestals over the belt, a shred of the waste on Orion's constellation, observation of you. Here come the truth, I'm most overdue, stuck over you, I've gone under. Living proof of God's wonders.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Alors, comment expliquer l'histoire de cet album, de cette nouvelle série, Thérapie de groupe, dans votre œuvre, Manuel Arsenet?
C'est comme je disais tout à l'heure, je voulais faire de l'humour qui ne soit pas référencé, qui soit pas celui de Ferry, qui soit pas celui de Lewis Trondheim, qui soit juste le mien. Donc, ça a été le challenge de reprendre le fameux gros nez. Et de faire que ce soit pas un truc pour adolescents, que ce soit pas une série de pirates, de cow-boys, de je sais pas quoi, que ce soit juste un truc que les gens qui ont à peu près mon âge peuvent comprendre. Et après, quand en plus on est âgé, on marche moins. Non, mais vous rigolez, mais j'ai une santé de merde. Moi, j'ai eu une vie où j'ai jamais fait de sport, où j'ai jamais bien mangé, où j'ai pris des tonnes de choses. Je m'estime déjà très content d'être arrivé là. Et dans un état où je peux encore marcher, mais c'est vrai que par exemple j'ai une jambe qui marche plus très bien. Enfin, petit à petit les choses se font. J'ai des lunettes. Vous pouvez pas le voir maintenant parce que je les ai oubliées dans un studio. Mais j'ai des lunettes et les lunettes c'est marrant. Ça c'est un truc que je savais pas. Ça réduit le champ de vision. Alors quand on en est habitué, c'est pas gênant. Mais quand on en a jamais porté de sa vie, j'ai l'impression de rater quelque chose. Tout ce qui est en dehors des lunettes, j'ai l'impression de le rater, de plus le voir. Ça change mon champ de vision et ça change ma manière de dessiner. Ça change ma manière de cadrer aussi. Je m'en suis aperçu récemment.
Manuel Arsenet, vous êtes au courant que cette année a été décrétée par le ministère de la Culture et le Centre National du Livre, année de la bande dessinée. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Plus on parlera de bande dessinée, plus je serai ravi, parce qu'il y a dans la bande dessinée des chefs-d'œuvre. Maintenant, il n'y a pas que ça. Longtemps, j'ai milité pour une bande dessinée toute puissante, qu'on reconnaisse ça comme un art premier, qu'on nous mette au même niveau que les littéraires ou que les peintres. Et je reconnais que je me suis trompé, parce qu'il y a quand même énormément de trucs achetés en bande dessinée. Donc c'est ni plus ni moins qu'un art. Mais si on peut en parler, c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien.
Et le statut de dessinateur, d'auteur de bande dessinée en France, comment aujourd'hui un dessinateur vit ou ne vit pas ou survit avec ce métier?
Oui, on n'est pas non plus des caisses, mais c'est vrai qu'on est quelques-uns à vivre de ça, essentiellement parce que les gens font un effort en mettant la main au porte-monnaie. Et c'est pour moi à chaque fois un geste étonnant, parce que je me demande toujours pourquoi mettre autant d'argent dans un livre. Et en même temps, c'est une grande tendresse, je trouve, comme geste d'acheter le livre de quelqu'un. C'est d'acheter une fenêtre sur lui et pour moi, d'avoir une fenêtre vers les gens, quoi. Donc, c'est sacré un peu. Maintenant, j'ai un statut privilégié, donc je peux vous parler de ceux qui n'ont pas un statut privilégié et qui sont obligés d'avoir souvent un vrai travail, comme on dit, vous voyez, un vrai travail à côté de la bande dessinée. Mais ça a toujours été le cas des artistes. Toujours. Alors, donner un statut à des gens qui sont pas encore assez forts pour gagner leur vie, bah, je me dis, ouais, bon, pourquoi pas. Moi, j'ai vécu très bien sans aucun statut. Je payais pas d'impôts, j'avais pas de chômage, j'avais rien et je vivais de ça. On faisait de la musique, on faisait du dessin, on achetait très peu à manger, c'était vachement bien. Alors maintenant, c'est vrai qu'on aimerait avoir la sécurité, mais quand on veut la sécurité, il faut pas faire artiste, quoi. C'est un des rares trucs auquel je tiens. C'est si on était aussi sûr de l'avenir que quelqu'un qui a un vrai statut, qui est un salarié ou tu vois, qui a un vrai statut, eh ben on serait pas libre. Or là, on fait exactement ce qu'on veut, exactement. Donc je me dis, il y a des métiers qui ont besoin d'avoir des statuts, qui ont besoin de choses solides, mais pour les artistes, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Ça l'a jamais été. Historiquement, c'est un des métiers les moins sûrs du monde, quoi. Donc ça n'a pas changé depuis, sans doute, l'homme des cavernes.
Manuel Arsenet, est-ce qu'on vous verra aujourd'hui, cette année, à Angoulême, ou est-ce que vous êtes toujours l'ours solitaire qui ne veut rencontrer personne?
Je suis l'ours solitaire. Par choix, je suis mieux chez moi. Et Angoulême, c'est très très bien, c'est un grand festival, et c'est très bien. Mais c'est
ça vous manque ou pas?
Honnêtement, non. Non. Je ne fais plus de festivals ou de dédicaces. Parce que déjà, je suis vieux, j'en ai marre de voyager le week-end.
J'aime vous bien refusez même d'être primé par vos pères.
Ah, il m'est arrivé des fois de refuser parce que je trouvais qu'il aurait été indécent de ma part d'être primé avant mes pères. À Angoulême, une fois, j'étais en lice pour le Grand Prix avec Cosset. Cosset, moi, je me rappelle, j'avais 12 ans et je recopiais ses livres avec une immense admiration qui ne s'est jamais défaite. C'est un type qui fait un boulot très haut de gamme depuis, je sais pas, 30, 40 ans. Il est impensable d'être primé avant son maître. Donc j'avais dit, s'il vous plaît, ne votez pas pour moi, votez pour Cosset. Et il a été élu, d'ailleurs. Merci, moi.
Ah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous refuserez pas le suprême.
En fait,
le prix suprême. Enfin, vous le méritez, Manuel Arsenet.
Non, je le mérite pas parce que je ne crois plus que la bande dessinée. Je serai pas, si vous voulez, un bon ambassadeur de la bande dessinée. Je l'aime plus assez. J'aime pas ce milieu. J'aime plus ce milieu. Je n'aime plus parce que j'ai eu beaucoup d'espoir en entrant dans un milieu artistique, de rencontrer des artistes et de parler avec des artistes d'art. Et je me suis aperçu qu'en bande dessinée, c'était apparemment très honteux. On devait plutôt parler de Gaudriol et de Picole et de tout ça, et qu'on parlait jamais d'art. Donc les seuls avec qui j'ai parlé d'art, c'était Jean-Yves Ferry, c'était Cabu. Il y en avait trois ou quatre, toi, pas plus. Et je trouve ça d'une indigence dans un métier artistique, quand on parle pas d'art et qu'on parle d'autre chose, j'ai pas ma place. Et puis, pour être honnête, j'aime très peu de bande dessinée. Il y a beaucoup de bande dessinée que je trouve à tort ou à raison, très mauvaise. Donc j'ai pas envie d'être le représentant. Pour être le Grand Prix d'Angoulême, il faut pouvoir représenter la bande dessinée dans divers pince-fesses ou divers je sais pas quoi. Et moi, j'ai pas tellement envie de la promouvoir. J'aurais envie, si tu veux, de promouvoir un livre, un auteur. Là, ouais.
Quelle est votre famille artistique, Manuel Arsenet? Vous avez cité Cabu, vous avez cité Ferry.
Sur Jean-Yves?
Ouais.
Non, c'est bien, je trouve que c'était le meilleur pour le job. Okay. À supposer qu'il faille faire ce job, c'est de loin le meilleur pour ce job. Pour moi, il a fait des albums. Je vois pas qui aurait pu faire mieux, à part évidemment Goscinny. Mais il a été hyper. Puis, tu sais, c'est compliqué. Il faut être respectueux de Uderzo. Il faut être. T'as une équipe sur le dos de je sais pas combien de personnes qui disent ah ben non, le trait là, Uderzo, il l'aurait jamais fait comme ça. Ou Goscinny, il l'aurait jamais raconté comme ça. Donc c'est très dur d'aller se glisser dans un truc. Après, voilà, c'est pas mon truc, je le ferai pas, mais il a très bien fait.
Si.
Astérix, je crois pas. Il y a trop de pression.
Ah bon?
J'ai fait un
Valérian.
Un Valérian, ouais. Alors mais là, justement, du coup, j'avais pas de pression. J'avais justement dit, je ne monte pas mes pages. Et j'ai pas tenu. Je les ai montrés à Mézières parce que je sais qu'il aime pas trop qu'on touche à ses personnages. Donc je lui ai montré à lui. Mais j'ai pas montré à l'éditeur. Et j'ai dit, je fais le truc et si vous le voulez, vous le prenez. Si vous le voulez pas, vous le prenez pas. Mais je voulais pas qu'on me dise, ah ben non, ça, vieux, tu peux pas. Ça m'énerve qu'on me dise, tu peux pas.
Donc vous rejoignez un peu le club des grands dessinateurs à qui on donne des reprises. Non mais c'est vrai, hein, je veux dire que...
Alors attendez, parce qu'on va remettre les choses à leur place, j'entre dans aucun club, parce que...
John Farr, Christophe Blain, Blueberry, enfin, dernièrement, le tif étendu par Blutch, ça va sortir là incessamment sous peu.
C'était trois artistes avec qui j'ai un passif dégueulasse. On s'est pas du tout entendu avec ces gens-là, on s'aime pas. On n'a rien encore.
Et pourtant, vous êtes considéré aussi grand que ou vous faites partie de cette nouvelle génération.
J'ai 50 berges. Bah, t'imagines la nouvelle génération?
Bah, c'est leur âge, hein. C'est notre âge.
Oui, eux, oui, mais j'espère qu'il y a des mômes qui vont venir là et qui vont nous jeter dehors. Vraiment. Alors, je ne les vois pas arriver parce que sur les blogs que je regarde.
Mais c'est fou ce que vous venez de dire, la Manuel Arsenet, hein, de dire je ne me suis pas entendu avec ces gens-là.
Mais c'est pas méchant. C'est sans doute des personnes extraordinaires, mais moi, je ne m'entends pas avec ces gens-là, quoi. J'ai pas beaucoup d'amis dans la vie. J'en ai même quasiment pas, plus. C'est parce qu'aussi, moi, je suis exigeant, quoi. Quand on l'est avec moi, je le suis avec les personnes. Et je m'entends pas avec ces gens, c'est tout. Mais c'est pas grave, mais au début, je pensais que je pourrais m'entendre avec tous ces gens. Puis c'est vrai qu'ils m'ont tous mis de côté, d'un air de dire, lui, il copie, lui, ceci. J'ai entendu ça pendant des dizaines d'années à Fluid, il copie Blutch, il copie un gosse, un regardez, il a encore fait. C'était d'une mesquinerie, d'une stupidité. En plus de la part d'artistes. Qui eux-mêmes sont pétris d'autres choses qu'eux-mêmes, me reprochaient ça à moi. C'était d'une stupidité incroyable. Je sens que je vais regretter ce que je suis en train de te dire là. Ouais. Mais je trouve ces gens pas honnêtes. Voilà, pas honnêtes.
On a tous nos défauts, Manu Larsonnet, ça les rend humains.
Bien sûr, mais ça permet, moi, de pas non plus côtoyer des gens que j'apprécie pas plus.
Alors, revenons à la question centrale. La famille, Manu Larsonnet, il y a Jean-Yves Ferry.
Peut-être. Il y a un type qui m'a jamais laissé tomber, c'est Lewis Trondheim. Au moment où tout le monde se foutait de ma gueule et me cherchait, Lewis, lui, il a fait les cosmonautes du futur pour moi. Il m'a amené chez Dargo à l'époque où il y avait encore Guy Vidal, qui a été mon mentor pendant malheureusement que 5 ou 6 mois. C'était un type que j'ai découvert, que je connaissais pas et que j'ai adoré. J'ai adoré être édité par Guy Vidal parce qu'il me cassait en deux quand il y avait un truc qui marchait pas et je comprenais très très vite ce qu'il disait. Et malheureusement, il est mort très vite et j'étais un peu orphelin au début. Mais c'est Lewis qui m'a emmené là-bas. Lewis, il m'a jamais laissé tomber. Jamais, 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 jamais. Donc j'ai une tendresse particulière pour Lewis, mais aussi pour Cabu, parce que c'est la première main que j'ai vue dessiner de ma vie. C'est à la télé, dans Récréa 2, j'ai vu cette main dessinée là, de ce type absolument timide, avec les cheveux sur les yeux, qui osait pas lever les... qui faisait un petit sourire en coin, mais qui avait pas de micro. Et il semblait tellement timide, et quand il dessinait, il y avait une sûreté. Il y avait une aisance. Et soudain, ça dézoomait, on voyait l'image. Et t'avais tous les mômes qui applaudissaient. Et je me suis dit, bah tiens, on peut parler sans mots. On peut parler sans avoir être en face à face avec la gorge ou la bouche de quelqu'un ou le visage de quelqu'un. On peut utiliser comme mots, on peut utiliser des traits. Et c'est lui qui m'a donné ça. Alors après, je l'ai rencontré, mais malheureusement, 3 mois, je crois, avant qu'il se fasse se quachiser. Et on a eu 2 après-midi où il m'a emmené dans son atelier où on a passé 5 ou 6 heures à ne parler exclusivement que d'art. Et c'est des moments pour moi qui... Il n'y a pas de mots. Parce qu'en plus, il était non seulement très, très cultivé là-dessus, mais aussi à l'écoute. Il voulait savoir ce que je pensais. Et c'est une des rares fois où dans ce métier-là, quelqu'un voulait savoir ce que je pensais. Enfin, à part des journalistes, bien sûr, mais je veux dire, un autre artiste. Et là, on avait un échange sur des peintres, on avait un échange sur les dessins des dessinateurs. Et lui m'a fait découvrir, effectivement, des dessinateurs que je connaissais pas. Et moi, en échange, je lui ai montré des choses, effectivement, que lui connaissait pas. Et c'était un type d'une grande patience. Et moi, j'étais tout fou dans son atelier de revoir cette main, tu vois, dessinée. Et il m'a dédicacé un truc et je l'ai regardé faire. Et j'ai retrouvé la même sûreté de trait, combien, 40 ans après, 30 ans après. Le même trait.
Voilà, on est en train de constituer la famille Manu Larsonnet. On a oui, le père, on a le frère, on a le jumeau, Jean-Yves Ferry. Et le fils, ce serait qui? Ou la fille?
Je sais pas.
S'il y a bien un ou une jeune dessinateur.
Moi, j'adore Fred Caro. Mais pour moi, il est arrivé après moi, donc du coup, il est plus jeune, tu vois. Et je me suis arrêté à Zai Zai, donc j'ai pas vu ce qu'il avait fait après. Mais en tout cas, lui, il me fait rire. Et puis Marion Montaigne aussi. Marion Montaigne, elle n'est pas encore réserve, mais elle a un dessin qui est tellement expressif, en quelques traits rejoint par un petit bout de couleur, elle arrive à te camper un personnage. Je suis toujours admiratif de ces dessins-là. Et puis elle a un humour que j'aime beaucoup. Après, je ne suis pas sûr que faire toujours de la science... Moi, j'aime bien les gens qui font aussi des histoires, parfois. Donc j'aimerais bien la voir faire une histoire, une vraie histoire qu'elle aurait inventée elle-même ou...
Allez, une dernière question, une question classique, comme on dit. Est-ce que quand vous dessinez, vous retrouvez une part de l'enfant que vous étiez, Manu Larsonnet?
Il y a forcément quelque chose qui vient de l'enfance. Tout le monde. Quand je parlais avec Ferry, pourquoi il dessine? À cause d'une enfance un peu difficile, un peu terne, un peu. Et souvent, tous les artistes que j'aime, Mano Solo, tous les artistes que j'aime ont eu en général un passé fracassé ou difficile. Et donc je me dis, ceux que j'aime, en fait, c'est ceux qui ont eu mal. Quelqu'un qui m'éclabousse de sa douleur, ça me touche. Voilà.
Bah, merci Manu Larsonnet.
C'est moi, monsieur Hakem.
Alors, cette thérapie de groupe avec un journaliste de France Culture.
C'était très bien, j'aime beaucoup.
Bon, mais je peux dire la vérité, c'est-à-dire que ce que je vois en ce moment, c'est un Manu Larsonnet en forme. Et souriant.
Mais vous savez, monsieur Hakem, je viens à Paris, 3 jours. Tout le monde s'occupe de moi. Tout le monde veut savoir ce que j'ai fait, comment j'ai pensé ça. C'est extrêmement flatteur, c'est génial. Je suis content. Et après, je rentre chez moi. C'est la solitude la plus complète. Là est ma vraie place. Mais j'adore venir vous voir.
Merci, monsieur Manu Larsonnet.
Ça me remet le moral. Au revoir, monsieur.
France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente Satan Tango, un film de Bellatar. Pour la première fois au cinéma, en version restaurée 4K.
Dans un petit village hongrois, où les habitants luttent quotidiennement contre le vent et les pluies d'automne, des rumeurs annoncent le retour de deux hommes mystérieux.
Mit képzelted? Itt van már az ígéretről, ugye?
Certains résidents voient l'arrivée du Christ, d'autres de Satan.
Miben bízott ez a szerencsétlen?
Une expérience cinématographique hors du commun. Satan Tango de Bellatar, actuellement au cinéma, un film France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Plusieurs professionnels du cinéma français dénonçaient un fonctionnement opaque dans l'Académie des Césars, le manque de diversité également. Eh bien, la direction de l'Académie démissionne en bloc, annonce inattendue faite hier soir. Nous y revenons dans un instant. Vous entendrez ensuite la colère et le dépit d'une infirmière dans un hôpital public. Le personnel hospitalier se mobilise en masse aujourd'hui pour plus de moyens. Les témoignages de violences conjugales sont-ils entendus dans les commissariats? La parole des victimes est-elle respectée? Oui, si l'on en croit les premiers chiffres du ministère de l'Intérieur. Reportage auprès de Christophe Castaner à suivre. Et puis nous irons au Venezuela où l'oncle de l'opposant Juan Guaido a été arrêté cette semaine. Son entourage dénonce un coup monté. La future direction de l'Académie des Césars doit permettre de représenter le cinéma français dans toutes ses esthétiques et sa diversité. Voilà ce qu'a estimé le ministre de la Culture, Franck Riester, hier. Il réagit ainsi à la démission collective de l'équipe en place. À 15 jours de la cérémonie annuelle, l'Académie des Césars est en crise. Cela durait depuis plusieurs jours, Thierry Fioril.
Visé par la tribune signée par des centaines de professionnels du cinéma, dont les plus illustres, c'est le cœur du pouvoir des Césars qui jette l'éponge. 47 membres cooptés, nommés à vie, majoritairement des hommes d'un âge certain. Manque de parité, de transparence dans les décisions et les comptes. La liste des griefs et le ton employé par les signataires sont inédits après les 12 nominations pour le film de Roman Polanski. Des oublis fâcheux dans l'annonce des films retenus. Le cinéma français s'est enflammé comme si cela devait de toute façon arriver. Depuis 5 jours, la quiétude de la cérémonie du 28 février semblait menacée. Il se dit même que l'Académie avait du mal à trouver des actrices et des acteurs volontaires pour remettre les récompenses.
Et déjà, des signataires de la tribune publiée contre l'ancienne direction réagissent. C'est une très agréable surprise et c'est bien d'être entendu, assez inédit, d'avoir une réponse rapide. Voilà la réaction de l'actrice Marina Foïs, notamment. Il prévoit aujourd'hui une grande mobilisation nationale. Les personnels hospitaliers continuent à marteler que l'argent débloqué par le gouvernement n'est pas à la hauteur des attentes. Ils veulent de meilleurs salaires pour les infirmiers et les aides-soignants des services d'urgence, plus de moyens également pour accueillir les patients. Depuis le mois de septembre l'année dernière, les médecins se sont ralliés à ce mouvement. Plus de 800 chefs de service ont démissionné dans toute la France, démissionné de leurs fonctions administratives. À Saint-Denis, en région parisienne, à l'hôpital de La Fontaine, les urgences sont en grève depuis 8 mois maintenant. Les salariés ont bien obtenu la création d'un poste d'aide-soignant à l'accueil, mais cela ne suffit pas à contenir l'hémorragie, comme en témoigne l'infirmière Yasmina Ketal, membre du collectif Interurgence.
On se retrouve dans la plupart des services d'urgence, dont le mien, dans une situation qui est plus grave qu'au début de la grève. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est retrouvé en janvier, alors entre les congés maternes, les non-remplacements, les départs, à 16 infirmiers sur 24, à tenir un mois de janvier avec un tiers de nos effectifs en moins. Tout le reste, en fait, ne peut pas être fait. Les commandes, toute la petite technique qui faisait qu'un service pouvait à peu près rouler, on peut plus le faire. Donc on a un service, on a l'impression qu'il part un peu en décrépitude et on n'a plus de perspective. La seule chose qu'on a obtenue, c'est des appareils à glycémie individuelle. Il y a eu des reportages où on expliquait que c'était insupportable d'en avoir qu'un ou deux pour tout le service. Mais en fait, c'est même pas quelque chose qui est payé, c'est quelque chose qui est donné par les laboratoires. Donc c'est la seule chose qu'on a obtenue et ça n'a même pas coûté un rond à l'hôpital, en fait. Après, on n'a toujours pas de pied à perfusion qui roule. Quand on doit faire un électrocardiogramme, des fois, on doit en prendre 1, 2, 3 appareils parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Enfin, on continue à travailler dans des modes dégradés. Et Madame Buzyn ne met pas sur la table des mesures rapides, cette question de manque de perspective de la part des soignants et de manque d'avenir, en fait, elle continue d'avoir ses effets. Et ses effets, c'est quoi? C'est perdre des gens au passage parce qu'en fait, ils en ont marre d'être maltraitants. Ils en ont marre d'être maltraités.
Des propos recueillis par Tara Schlegel. La ministre de la Santé, pour le moment, a prévu de revoir les médecins démissionnaires à la mi-mars. Une nouvelle mise en examen pour Tariq Ramadan. L'islamologue est accusé de viol. Deux femmes interrogées comme témoins par des policiers il y a un an avaient été identifiées sur des photos retrouvées dans l'ordinateur de Tariq Ramadan. Lui conteste toujours toutes les accusations. Notons aussi que le domicile parisien de Gabriel Matzneff a été perquisitionné hier. Cela s'inscrit toujours dans l'enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans qui vise l'écrivain âgé de 83 ans. Ce chiffre à présent, plus de 9 victimes de violences conjugales sur 10 ont jugé leur accueil par les forces de l'ordre satisfaisant. Chiffre donné par les forces de l'ordre via le ministère de l'Intérieur. Christophe Castaner était hier pour l'occasion dans les Yvelines. Il y a défendu ses troupes après la fin de ce premier audit sur les violences conjugales. C'est un reportage de Diane Berger.
Quand l'IGPN annonce le chiffre, la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines, gendarmes et policiers présents sourient. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ne cache pas une certaine fierté.
90% des femmes qui ont voulu entendre la façon dont on pouvait les protéger en venant voir la police ou la gendarmerie disent avoir été bien accompagnées. Depuis un an, dans chaque école de police et de gendarmerie, il y a des modules de formation à l'accueil et à l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et puis, nous avons mis en place depuis aussi une formation continue pour qu'au fil de l'année, les enquêteurs, les policiers, les gendarmes en charge de l'accueil puissent améliorer encore la façon de le faire.
Pendant le Grenelle sur les violences faites aux femmes, le manque d'efficacité de la police a souvent été pointé du doigt. Alors, pour Christophe Castaner, c'est l'occasion de défendre ses forces.
On fait un procès un peu facile, tellement facile, à la police ou à la gendarmerie. Il y a pu y avoir des erreurs et que nous devons évidemment les corriger. Chaque erreur est insupportable. Mais c'est une faute parce que moi, je ne connais qu'un coupable, c'est l'auteur. Et nous devons ne pas chercher d'autres responsabilités, même si quelquefois, pour certains, ça peut être un sport national de considérer que c'est forcément la police ou la gendarmerie qui serait responsable d'eux.
Mais l'étude menée sur 600 victimes de violences conjugales est-elle suffisamment fiable? C'est à confirmer. Et pour cela, le ministère de l'Intérieur annonce que l'audit se poursuivra en 2020 sur, cette fois, 600 lieux et 2000 victimes.
Donald Trump estime avoir de bonnes chances pour parvenir à un accord de paix avec les talibans en Afghanistan. Un peu plus tôt hier, une trêve partielle avait été annoncée depuis Bruxelles et ce lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. La fin des combats en Afghanistan pourrait durer 7 jours au moins. Il est revenu dans son pays pour remobiliser ses troupes. L'opposant vénézuélien Juan Guaido était de retour en début de semaine au Venezuela après une tournée internationale. Il a ainsi bravé une interdiction de sortie de territoire. Mais mardi, lors de son arrivée à l'aéroport près de Caracas, son oncle qui l'accompagnait a été arrêté. Juan Marquez l'avait suivi tout au long de sa tournée. Appréhendé à la sortie de l'avion, il est accusé d'avoir ramené des explosifs et des gilets pare-balles, ce que démentent ses proches Benjamin Delisle.
Pendant plus de 24 heures, personne ne savait où se trouvait Juan Marquez. Mercredi soir, ses proches ont finalement été informés qu'il avait été transféré devant un tribunal après avoir été détenu au siège de la direction du contre-espionnage militaire de Caracas. C'est Diosdado Cabello, président de l'Assemblée nationale constituante, qui a révélé à la télévision les faits qui lui sont reprochés.
Il avait avec lui des lampes de poche tactiques qui contenaient, dans les compartiments des piles, des substances chimiques de nature explosive. Il avait des capsules de recharge de parfum qui contenaient aussi des substances chimiques explosives, sans doute du C4.
Des accusations rejetées notamment par la compagnie aérienne portugaise avec laquelle il voyageait. Dans un communiqué, la TAP précise qu'il est impossible de monter dans ces avions avec de tels explosifs. Selon l'avocat de Juan Marquez, Joel Garcia, il s'agit d'un coup monté.
Il n'est ni auteur ni complice de ces faits. Ce qui est certain, c'est que Juan José Marquez est un instrument pour faire pression sur Juan Guaido.
L'opposant dénonce, je cite, « l'enlèvement de son oncle et tient Nicolas Maduro directement responsable de tout ce qu'il subira pendant sa détention ».
Je précise qu'hier soir, par ailleurs, des centaines de soldats et de miliciens, des blindés et des véhicules transportant des missiles se sont massés près de la frontière colombienne. Des manœuvres militaires ordonnées par le président du Venezuela, Nicolas Maduro. Le nombre de décès quotidiens liés au coronavirus, le Covid-19, se tasse un peu en Chine orientale, même si les chiffres se contredisent. Après des doublons calculés hier, les autorités chinoises s'arrêtent finalement sur le chiffre de 1380 décès depuis le mois de décembre, plus de 55 000 personnes contaminées. Et en France, par ailleurs, les rapatriés de la province du Roubaix, mis en quarantaine à Carry-le-Rouet près de Marseille il y a 14 jours, vont pouvoir quitter le centre de vacances aujourd'hui. Aucune de ces personnes n'a contracté le virus. C'est le retour d'un temps calme ce vendredi sur le nord de la France. Il sera toutefois très nuageux. Quelques pluies pourraient tomber sur la pointe bretonne. Du soleil encore au sud de la Loire. Comptez ce matin 6 degrés à Lille, 8 à Strasbourg, 9 degrés à Paris, Rennes et Lyon, 11 à Bordeaux et jusqu'à 17 degrés à Nice dans la matinée. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
La situation humanitaire s'aggrave en Syrie, à Idlib. Vous en faites état dans votre journal des idées ce matin, Jacques. Il s'agit du plus grand déplacement de la pire guerre de notre génération. Voilà ce qu'a déclaré le chef de l'ONG norvégienne Refugee Council, Jan Egeland.
Oui, Idlib est le dernier bastion de la rébellion anti-Bachar al-Assad, où vivent 3,5 millions de personnes, pour une grande part d'ailleurs des déplacés du conflit, rappelle Marie Jégot dans Le Monde, qui consacre plusieurs articles à la tragédie qui se déroule sous nos yeux et quasiment à nos portes. La population se trouve prise en étau entre 20 000 combattants rebelles, principalement djihadistes, épaulés par la Turquie, et les forces gouvernementales, aidées par des bombardements russes qui n'épargnent ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les marchés, selon une méthode déjà éprouvée par Vladimir Poutine en Tchétchénie, souligne l'éditorial du quotidien. Un déluge de bombes et d'obus qui a jeté 700 000 personnes sur les routes, selon l'ONU. La cadence de l'exode s'est accélérée, deux dernières semaines en raison de l'avancée des troupes loyalistes qui ont récupéré le contrôle de l'autoroute M5, un axe stratégique reliant Damas à Alep, précise Benjamin Barthes, qui ajoute que l'hiver glacial qui s'est abattu sur la province d'Idlib avec un thermomètre descendant jusqu'à moins 11 degrés, de la neige par endroits et de violentes bourrasques de vent ajoute au calvaire des Syriens. D'après les décomptes de l'Organisation mondiale de la santé, 72 hôpitaux, cliniques et dispensaires ont dû suspendre leurs activités depuis décembre, soit après avoir été pris pour cible, soit de peur de l'être. Le régime détruit tout ce qui peut nous aider à continuer à vivre, s'insurge Naguib Makour, un responsable des Casques Blancs, l'organisation de secouristes qui opère dans les secteurs tenus par la rébellion. Nous essayons autant que nous pouvons de soutenir la population, mais nous avons le sentiment que le monde entier nous a abandonnés. On peut craindre que la poursuite de l'offensive militaire ne précipite le déplacement forcé des populations vers la Turquie, qui héberge déjà 3,6 millions de réfugiés syriens, ce qui pourrait inciter Ankara à reprendre son chantage aux migrants vis-à-vis de l'Union européenne et provoquer une dissémination des djihadistes. La menace devrait nous faire réagir, si ce n'est pour des raisons humanitaires, au moins dans le souci de notre sécurité. Michel Duclos, l'ancien ambassadeur de France en Syrie, évoque la ville de Marat al-Nouman, qui vient de tomber entre les mains du régime et dont il ne reste plus une pierre debout. Or, ses habitants, s'ils étaient rebellés contre Assad, avaient aussi chassé les djihadistes, ce qui est le cas de nombreuses autres localités de cette région. En bombardant les civils et en les jetant sur les routes, on les rejette du côté des terroristes, alors qu'une stratégie de contre-insurrection intelligente aurait pu consister précisément à s'appuyer sur la population civile et les groupes rebelles pour isoler les djihadistes, première étape, avant de les réduire. Le diplomate suggère donc aux Européens et aux Américains de proposer à la Russie et à la Turquie de donner une chance à une stratégie de contre-insurrection ménageant la population civile. Au moment où l'on parle tant de renforcer la défense européenne, n'est-ce pas un projet que le président de la République pourrait défendre à la conférence de Munich sur la sécurité à la fin de cette semaine, demande le diplomate. Le monde arabe existe-t-il encore? La question se pose alors que la tragédie syrienne met en présence iraniens, russes et turcs contre la population arabe et kurde. Elle est aussi, cette question, le titre d'un ouvrage collectif coédité par l'Institut du Monde Arabe et Le Seuil. Les géographes Leïla Vignal et Loïc Rivaud font le terrible bilan des destructions causées à la ville d'Alep. Là aussi, les dégâts sont énormes et relèvent pleinement de la stratégie de guerre du régime, notamment dans la vieille ville médiévale, classée patrimoine de l'humanité, dont le tissu urbain et populaire a été délibérément visé. Marchés alimentaires, mosquées, hôpitaux, écoles ont été systématiquement bombardés pour faire fuir les populations civiles qui se retrouvent d'ailleurs aujourd'hui en partie à Idlib. De cette tactique de la terre brûlée témoignent aussi les projets de reconstruction qui révèlent une volonté de transformation radicale du peuplement de la ville entamée durant la guerre. Une loi de 2018 légalise l'expulsion des populations jugées indésirables et organise le transfert du foncier de ces quartiers au potentiel de valorisation immobilière important vers les mains des milieux d'affaires proches du régime. Pour les géographes, cette reconstruction, telle qu'elle est annoncée, confirme et approfondit donc la stratégie de destruction de la ville à l'œuvre pendant la guerre. Elle peut, de ce point de vue, être définie comme un urbicide. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Jair Bolsonaro a-t-il une opposition au Brésil ?
Oui, le Parti des Travailleurs vient de fêter ses 40 ans, parti qui a gouverné le pays pendant 13 ans avec Dilma Rousseff, mais d'abord et surtout Lula, celui-ci condamné au printemps 2018 à plus de 8 années de prison pour corruption et blanchiment d'argent, est sorti il y a 3 mois et devrait rester libre, en tout cas tant qu'il n'a pas épuisé tous ses recours. De quoi peut-être donner un peu de vigueur au Parti des Travailleurs dont le seul programme depuis un an et demi était la libération de son chef. Ainsi renforcé, le PT, comme on l'appelle, est-il en mesure de mettre en difficulté la présidence de Jair Bolsonaro ? Celui-ci est toujours plébiscité par les sondages d'opinion. Quoi qu'il fasse, apparemment, par exemple, nommer, comme il l'a fait hier, un militaire comme chef du gouvernement. Bonjour Armel Enders.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne du Brésil contemporain, professeure à l'université Paris 8. Alors le Parti des Travailleurs qui vient de fêter ses 40 ans, il est fort du retour de Lula mais qui n'est pas éligible, qui n'a pas été innocenté par la justice brésilienne. Est-il à nouveau, ce parti, néanmoins une alternative forte ?
Alors il a un bilan paradoxal pour ses 40 ans. D'abord quand même un bilan très important, l'exercice du pouvoir pendant 13 ans et avec une transformation quand même importante de la société brésilienne et le Parti des Travailleurs a beaucoup contribué à faire avancer la démocratie au Brésil, normalement à la consolider. C'est les mois récents évidemment sont plus sombres sur cet aspect-là, qui est un parti qui a quand même résisté à la vague Bolsonaro parce que il a le premier groupe parlementaire à la Chambre des députés et son candidat a été quand même au second tour. Donc il n'a pas été éliminé. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, c'est un parti qui peine à adapter son programme.
Qui reste un peu sur le programme des années 2000, quoi.
Absolument. Qui a beaucoup de mal qui estime, et à juste titre, que c'est l'organisation la plus importante et qu'il doit conduire la reconquête du pouvoir et qui a beaucoup de mal à faire des alliances avec les autres forces d'opposition à Bolsonaro et avec la gauche brésilienne en général.
Et avec une patronne, Gleisi Hoffmann, qui est quand même peut-être moins charismatique, en tout cas qui ne provoque pas le même élan d'amour que Lula. Est-ce que ce Parti des Travailleurs, qui fut à l'avant-garde de la vie intellectuelle brésilienne, avec des échanges d'idées constants et des grandes assemblées toujours entre les ouvriers, les universitaires, le mouvement des sans-terres et bien d'autres, est-ce qu'il a encore des idées à proprement parler ?
Alors, des idées, sans doute, il est totalement déconcerté, comme beaucoup de forces, comme la social-démocratie dans le monde entier, hein, par l'évolution de la société. Sans doute, un de ses membres historiques et figure aussi tutélaire, Tarso Genro, s'est exprimé à propos des 40 ans du PT en disant que, il y avait un logiciel à adapter et que, enfin, que le PT ne pouvait plus continuer à avoir, avait un discours qui était plus adapté à la société, à l'évolution de l'économie, à la précarité, et qu'il fallait donc l'actualiser.
Et notamment des personnalités brésiliennes critiques du lulisme, mais de gauche, disent par exemple que Lula est incapable de comprendre que le Brésil est un pays irréconciliable, qu'il y a deux Brésils, celui des classes dirigeantes et celui des travailleurs. Il y a aussi tous ces électeurs brésiliens, ils sont nombreux, qui détestent le parti des travailleurs. Il y a aussi une animosité envers ce parti-là. Donc est-il aujourd'hui, et Lula par son simple retour dans le débat, est-il en mesure de mettre en difficulté Jair Bolsonaro avec des sondages? On parle déjà des élections de 2022, mais il y a aussi des municipales, une échéance plus prochaine. On est à 9 mois des municipales. Bolsonaro caracole en tête des sondages, toujours plus de 40%, 47% d'opinions favorables.
Alors, c'est, attention, il n'a pas des, c'est pas des opinions favorables, c'est des intentions de vote, et puis les 40%, ça serait dans 47%, ça serait dans un éventuel second tour pour des élections en 2022. Toujours. Donc, c'est pas un sondage de popularité. Au contraire, Bolsonaro est un des présidents, enfin, c'est le président le plus impopulaire à ce moment-là de son mandat. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une remontée.
Mais on voterait quand même pour lui, alors.
Il y a une remontée, oui. Oui, alors dans ce même sondage, Lula ne fait quand même bonne figure. Hein. Il est très proche, il est devancé de quelques points par Bolsonaro, mais il est quand même très proche. Donc c'est beaucoup. Lula n'est pas une figure usée, sauf que c'est pas une figure d'avenir. D'abord, on ne sait pas s'il est éligible. Puis c'est un homme autour de 75 ans. C'est quand même il n'a pas une longévité politique devant lui très, très ouverte. Alors, les critiques que vous indiquiez, elles sont de deux types. C'est-à-dire qu'il y a une critique, disons, d'extrême gauche, qui en gros c'est toujours la même. Le discours du PT n'est pas suffisamment à gauche, c'est pour ça qu'il perd les travailleurs. Ce qui est sans doute une équivoque.
Alors, avançons sur le clan Bolsonaro en lui-même, le clan de Jair Bolsonaro. On dit d'ailleurs bolsonariste, il y en a qui se disent fidèles à Bolsonaro, même si cette fidélité est parfois de circonstance, notamment le ministre de la Justice, par exemple, qui lors d'une émission de télévision récemment, n'a pas voulu dire s'il se présenterait ou pas à la prochaine présidentielle. Ça a été interprété par tous les médias comme une sorte d'aveu de future candidature. Ce ministre de la Justice qui est un peu son rival en interne, en fait, même s'il est mis en cause aujourd'hui dans des enquêtes, notamment de ce journaliste Glenn Greenwald, qui est aujourd'hui emprisonné pour avoir enquêté sur ce... Il n'est pas emprisonné, il est mis en cause dans une affaire. Il a enquêté sur la corruption de ce juge. Il y a donc au sein même du clan bolsonariste des rivaux sérieux ou pas?
Alors c'est une obsession de Bolsonaro d'essayer de tuer dans l'œuf toute candidature qui pourrait lui faire de l'ombre. Alors un des plus sérieux, c'est effectivement le ministre. Alors, le ministre de la Justice, c'est beaucoup plus proche du ministre de l'Intérieur que de garde des Sceaux au Brésil, qui est l'ancien juge Sergio Moro, qui est la figure la plus populaire du gouvernement, mais même dans les intentions de vote, en ce moment, Bolsonaro le devance. Et effectivement, il y a une relation assez complexe entre les deux hommes, et ce juge Moro, vous avez évoqué l'enquête du journaliste Glenn Greenwald, qui a eu accès à des conversations entre les juges de Lavajato et donc mettant en cause les procédés de ces juges, et ça a porté sérieusement atteinte, effectivement, à l'image de Sergio Moro.
Il aurait truqué, par exemple, un procès pour envoyer Lula en prison.
Absolument, il n'y a aucun doute sur le fait que le premier procès qui a envoyé Lula en prison est un déni de justice absolu. Enfin, ça, c'est tout à fait clair.
Le clan Bolsonaro.
Voilà, alors le clan Bolsonaro, alors autour de Bolsonaro, vous avez plusieurs tendances. Alors le clan, il y a un clan qui est, clan familial, véritablement, qui est animé par ses fils, qui sont tous politiciens. Et le clan, l'ascension politique du clan Bolsonaro, c'est les relations avec les milices mafieuses de l'État de Rio de Janeiro, et qui sont composées d'anciens militaires, d'anciens policiers, de policiers ripoux. Donc ça, c'est une tendance importante. Vous avez une autre
milice mafieuse d'ailleurs dont on sait, et là le commanditaire de l'assassinat a été tué lundi dernier, c'est tout récent, mais dont on sait qu'elles sont à l'origine, ces milices, de la mort de Marie-Hélène Franco, cette conseillère municipale de Rio, très engagée dans la lutte contre les milices dans les favelas de Rio. Donc le fils de Bolsonaro est proche de ces milices-là, et pour autant la popularité de Bolsonaro n'en semble pas, alors vous avez mis des nuances, mais pour l'instant tellement ternie, et surtout les militaires continuent à afficher un soutien sans faille à Bolsonaro, alors que le lien entre militaire et milice doit être quand même un petit peu plus compliqué que ça.
Non, alors ça n'a rien à voir, voilà. Quand même. Les militaires, c'est vraiment autre chose. Hein. Alors quand on dit militaire, ça c'est pour l'État de Rio de Janeiro, les milices, ça serait l'équivalent de la gendarmerie locale de Rio de Janeiro. Donc l'armée brésilienne, l'armée fédérale, c'est un tout autre niveau.
Oui, mais justement, c'est surprenant de voir que l'armée n'intervient pas au fur et à mesure que les enquêtes montrent la proximité du clan de Bolsonaro avec ces milices de New York qui sont à l'origine de nombreux crimes.
Alors, c'est
de New York, de Rio, pardon.
Ces milices sont c'est autre chose. L'armée soutient Bolsonaro. Elle a été un peu évincée au début du mandat au profit du clan des fils de Bolsonaro, qui sont liés aussi à un idéologue très proche de l'extrême droite américaine. Et en ce moment, les militaires sont en train de revenir en force, notamment en raison de la question amazonienne.
Allez-y. Alors, parce que ce rapport a fait quand même beaucoup de bruit, ce rapport dont que s'est procuré un journal brésilien qui disait que c'est rédigé par le ministère de la Défense, scénario de défense pour 2014, et parmi les hypothèses rédigées, il y a celle d'une attaque du Brésil par la France via la Guyane française où elle posterait ses troupes, et c'est l'Amazonie qui est au centre de l'affaire.
Alors, l'Amazonie, c'est une question très importante pour c'est une question très importante en ce moment pour le Brésil. Pour les militaires, bon, c'est une région donc dont la colonisation n'est pas achevée, et donc qui a toujours, depuis la dictature militaire, est un grand terrain réservé aux militaires. Et la crise internationale autour des incendies en Amazonie et la fragilisation de Bolsonaro à ce moment-là a permis le retour des militaires, et en même temps qui défendent leurs intérêts corporatistes, c'est donc d'avoir accès au budget.
Et voilà. Et donc hier, Bolsonaro a annoncé la nomination d'un militaire au poste de l'équivalent de notre Premier ministre, on va dire chef du gouvernement. Merci beaucoup, Armelle Enders, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes historienne du Brésil contemporain et professeure à Paris 8. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Février 2020, la campagne des élections municipales s'élance en France dans un climat social délétère. D'anciens candidats jettent l'éponge, d'autres jettent leur étiquette. Alors que les citoyens continueraient à croire en leur maire et en leurs élus, quels sont les liens entre identité et culture locale? L'attractivité des régions passe-t-elle par la culture? Comment lutter contre les déserts culturels? Identité, égalité, attractivité, les territoires de la culture, jusqu'au 16 février, semaine spéciale municipale 2020 sur France Culture, un dossier à suivre sur franceculture.fr. Hashtag quand le témoignage prend la parole.
Toutes les semaines, réagissez sur les réseaux sociaux, sur ce qui change votre vie. Renoncer à l'avion pour la planète, sauvegarder le patrimoine, vivre le handicap au quotidien, témoigner et compléter des interviews engagées.
Hashtag, c'est dès lundi sur les réseaux sociaux, le vendredi dans les matins de France Culture à 7h24 et sur franceculture.fr.
6h57 sur France Culture, je signale la présence d'un trouble fête dans ce studio. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
14 février, Guillaume, comment gâcher la Saint-Valentin?
Mais je sais que c'est une question que vous posez, Julie, bah je vois deux possibilités pour piétiner la fête de l'amour, inviter un sociologue ou un romancier. Alors vous avez le choix, hein, il y en a beaucoup, d'Eva Illouz à Laclos, en passant bien sûr par Houellebecq. N'importe lequel de ces experts se chargera de désacraliser l'amour et fera passer la passion la plus pure, ou bien comme le produit du social et de ses déterminations, ou bien comme la pire des tragédies se déroulant à l'insu des acteurs. Alors la vraie question finalement est de savoir si quelque chose a changé, notamment quelque chose a-t-il changé depuis l'apparition des sites de rencontres. Voici d'un côté une technique censée offrir des choix infinis, pour toutes les formes de vie intime, gay ou pas, furtive ou pas, catho ou cachère. Bref, la possibilité est donnée à chacun de chercher le mulot à coups de souris ou bien d'un simple effleurement de l'écran. D'où cette question, cet espace, a priori plus ouvert, va-t-il déboucher sur des unions socialement plus libres ? Il faut vous dire que pour les sociologues et de nombreux romanciers, aucune personne ne va dans un lit sans une idée sociale bien précise derrière la tête. C'est ainsi que chez Maupassant, Georges Duroy alias Bellamy construit son ascension sociale sur l'oreiller. La tragédie chez les romanciers, c'est lorsque les sentiments, ou pire, les pulsions, viennent bouleverser le social. C'est ce que raconte Benjamin Constant dans Adolphe, Lawrence dans L'amant de Lady Chatterley. C'est en cela que Benjamin Constant et Durkheim sont d'accord lorsque Constant raconte une passion dévorante et impossible, en partie dévorante parce qu'impossible. Il illustre la règle selon laquelle, je cite Constant, « les lois de la société sont plus fortes que les volontés des hommes ». La question qui se pose aujourd'hui consiste à savoir si les nouvelles technologies permettent de s'émanciper des lois de la société, en particulier l'homogamie est-elle en diminution ? Cette propension à s'unir avec quelqu'un de son milieu social. Pour le dire en un mot, la réponse est oui, mais la question est pourquoi cette diminution ? Pourquoi les classes sociales se mélangent-elles plus dans les alcôves ? Alors pour les uns, parce que nous sommes plus autonomes, moins soumis au social. Pour les autres, parce qu'il y a moins de classes sociales. Mais comme l'écrit Benjamin Constant, toujours dans Adolphe, presque toujours pour vivre en repos avec nous-mêmes, nous travestissons en calcul et en système nos impuissances ou nos faiblesses.